Radio Campus 88.3. Fait chier.
Focus musique au centre.
Mémoire.
Diabolus in musica.
L'ensemble perspective.
La rêveuse.
Marianne Picassi.
Ensemble Jacques Roder.
Les folies françaises.
La rêveuse.
Ensemble consonance.
Ensemble kern.
Ptitis.
Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Campus en ce dimanche matin pour partager un moment avec l'un des 10 ensembles musicaux de la région centre. Ce matin, nous vous promettons un rendez-vous onirique, puisque nous avons rendez-vous avec l'ensemble baroque, La Rêveuse.
Le grand rendez-vous.
Bonjour Florence Bolton et Benjamin Perrault, puisque c'est vous La Rêveuse.
Bonjour. Bonjour.
Alors La Rêveuse, pourquoi La Rêveuse ?
Alors La Rêveuse, c'est...
Benjamin.
C'est une pièce de viol de gambe.
La viol de gambe étant ?
Étant un instrument à cordes, baroque donc.
Oui.
Une pièce de viol de gambe écrite par Marin Marais, un grand compositeur du XVIIe et XVIIIe siècle.
Et un la peu rêveuse, le grand maître de la viol de
c'est
gambe.
C'est ça. Ouais. Et La Rêveuse, c'est une de ses plus belles pièces.
Vous avez choisi ça pour la musique ou pour le côté onirique du titre ou pour les deux, mon capitaine ?
Les deux, mon capitaine. Ah, mais c'est sûr que le rêve, c'est quand même important, surtout aujourd'hui peut-être. Et on a toujours été des grands rêveurs, Benjamin et moi.
Et alors, donc, Florence, c'est vous qui jouez de la viol de gambe.
Voilà, c'est moi,
alors,
la violiste.
Pour les gens qui ne connaissent pas la viol de gambe, on pourrait croire que c'est de la famille du violoncelle, mais pas du tout.
Eh bien, pas du tout. Si vous voyez écrit ça dans un livre, jetez-le tout de suite à la poubelle, car ce n'est pas l'ancêtre du violoncelle, mais c'est une autre famille, une famille parallèle, finalement, qu'on connaît moins bien, puisque la famille du violoncelle a fini par prendre toute la place et la famille des viols de gambe a disparu progressivement. Donc, on la connaît bien sûr moins que le violoncelle.
Alors, on le tient quand même entre les jambes.
Oui.
Un peu comme un violoncelle.
Oui, viol de gambe, c'est viol de jambe.
Ouais.
Et voilà, effectivement.
Alors, mais... vous êtes gambiste ou vous êtes violeuse ?
Violeuse, pas encore. Violiste, surtout.
Violiste, oui. Alors, vous, Benjamin, vous jouez de la guitare électrique, c'est ça ?
Alors, j'en ai fait beaucoup, mais ça m'a amené à d'autres instruments, dont le théorbe et le luth. Mais le théorbe, c'est le plus... étrange, c'est un grand luth avec un manche à rallonge et à 14 cordes.
Et c'est très beau à voir et à entendre.
Et voilà, et à l'époque où je faisais des études de guitare classique et où je jouais de la guitare électrique, donc je suis tombé amoureux de la musique baroque et j'ai vraiment, je n'ai eu de cesse de penser à ça et de vouloir en faire, et finalement ça s'est concrétisé.
Et donc cet instrument que peu de gens connaissent finalement, puisqu'il est moins familier que d'autres, est pourtant très présent dans cette musique ancienne que vous interprétez.
Alors aujourd'hui il n'est pas très connu, à l'époque
ouais.
c'était instrument
star,
vraiment
ouais.
très courant et qui fait partie des instruments couramment utilisés dans la musique de chambre, dans la musique d'opéra, dans la musique même d'église, donc un peu dans tous les répertoires de l'époque. Et au même titre que le clavecin, etc.
Ok, alors avec la musique que vous avez choisie, la première, on va rendre hommage à ce maître qui a donné son nom à votre ensemble.
Thank you.
Alors, on vous entendait, Florence Bolton, avec votre viol de gande. Dans cette biscayenne de Marin-Marais, c'est quoi la biscayenne?
Alors, a priori, c'est une jeune fille qui vient de Biscaye. Et vu un petit peu l'écriture, je pense qu'elle était assez épicée, cette jeune fille. Musique hot de l'époque.
Alors, on l'évoquait hors micro, pendant qu'on écoutait cette musique. La place des femmes dans la musique ancienne est intéressante à questionner. D'ailleurs, vous avez un projet autour de ça.
Oui, on a effectivement un concert-conférence autour des femmes. Alors, c'est un sujet, et évidemment, en deux minutes, c'est difficile de parler de tout ça. Mais effectivement, le choix de l'instrument, le fait que la pratique professionnelle leur était très compliquée, voire interdite, l'écriture aussi. Beaucoup de femmes ont écrit, mais on le sait peu aujourd'hui, puisqu'elles n'ont pas été éditées, donc beaucoup de choses se sont perdues. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions, effectivement, autour de ce riche sujet.
Alors, avec le disque suivant, nous allons partir un petit peu en voyage, pas très loin d'ailleurs. On va partir à Londres. Et pourquoi Londres?
Alors, Londres...
Bolton, c'est déjà très anglais.
Oh yes. Oui, alors effectivement, j'ai un père anglais, ce qui fait qu'avec Benjamin, on a toujours beaucoup travaillé sur la musique anglaise depuis le début de La Rêveuse. Et puis Londres, c'est une ville qui nous fascine un peu au XVIIIe siècle parce que finalement, c'est une ville très moderne, peut-être plus en avance en tout cas sur beaucoup de plans, mais aussi sur le plan de la culture, sur des pratiques culturelles par rapport à d'autres villes. Il faut dire que l'évolution de la musique dépend aussi de l'histoire sociale.
Et économique.
Et économique. Oui. Et c'est une ville en pleine expansion, avec une montée vraiment très rapide de la bourgeoisie, plus qu'à Paris, par exemple. Ce qui fait que les pratiques culturelles modernes, enfin, qui sont assez proches de celles d'aujourd'hui, finalement, sont déjà là à la fin du XVIIe siècle. Et donc, on a eu l'idée de faire cette série. Les séries, c'est à la mode. Et puis, ça permet de tourner autour d'un sujet, parce que finalement, on se rend compte que quand on travaille sur un sujet, on commence comme ça, puis après, puis on y met le bras, oui, puis c'est... tout le corps. Et on finit jamais de tourner autour d'un sujet. Et la série, c'est une forme qui permet ça.
Alors, on va découvrir, en plus, grâce à vos enregistrements, on découvre tout un tas de compositeurs qu'on avait un petit peu oublié, qui avait un peu disparu, et en particulier ce William Babel qu'on entend dans un concerto pour six flutes.
Yes.
Thank you.
On a perdu l'habitude un peu d'entendre le son de cette flûte, hein, de cette sixth flûte. C'est quoi? C'est la sixième flûte, oui, dans l'aigu.
Ça veut dire la flûte à la sixth.
En fait. À la sixth.
C'est oui. La flûte à la sixth.
Qui est vraiment une flûte très anglaise.
Jouée par Sébastien Marc dans cet enregistrement. Alors, on parlait de Londres, et c'est quand même très intéressant. Ça n'est pas pour rien que vous avez choisi cette ville, parce que donc au XVIIIe siècle, c'est dingue ce que cette ville accueille comme étrangers.
Oui.
Et absolument. Elle s'en porte bien.
Oui, c'est une grande ville d'immigration qui s'est ouverte. Donc finalement, Londres qu'on connaît aujourd'hui n'était pas comme la Londres du XVIIIe siècle. Et c'était un peu le point de départ de cette série, de montrer comment l'influence des étrangers peut être importante pour un pays, parce qu'elle apporte plein de choses. Ça s'est vu en musique, mais aussi en peinture. Donc les Anglais ont vraiment bénéficié de cette immigration massive, surtout d'Italiens. Il y a eu un peu de Français, un peu d'Allemands, mais au moment des années 20, 1720, on a vraiment énormément d'Italiens, parce que le grand compositeur à la mode, c'est Corelli. Et donc, produit d'appel, tout le monde veut jouer de la musique italienne, etc. C'est la mode.
Alors, vous avez fait un enregistrement sur Londres 1700.
Oui.
Les débuts, comme vous expliquiez. 1720. Et après?
Et après, il y a 1740 qui va sortir l'année prochaine. Alors là, on est dans une période un peu de transition entre plusieurs modes d'instruments aussi. La flûte à bec va laisser la place au traverso petit à petit. Il y a une petite éclipse de la viole de gambe, mais qui va ressortir dans les années 1760, donc ça sera l'épisode d'après. Et puis, il y a beaucoup d'Allemands à Londres, là, les Italiens sont là, mais il y a aussi beaucoup d'Allemands. Pourquoi ? Parce que le souverain, enfin la nouvelle dynastie des souverains Hanovre, donc Georges Ier, Georges II, Georges III, sont très Allemands. D'ailleurs, Georges Ier et Georges II ne parlent pas très bien l'anglais, ils sont vraiment restés très Allemands, ce qui fait que voilà, il va y avoir beaucoup de musiciens allemands qui vont venir, et notamment Handel, qui deviendra finalement le symbole de la musique anglaise.
Ce qui est très étonnant.
Oui.
Hein. D'ailleurs, il a plusieurs orthographes, ce Handel. Handel ou
oui,
alors
oui.
Handel, on ne sait jamais trop comment l'écrire.
Oui, puis il s'est fait appeler Georg Friedrich.
Ah oui.
À l'anglaise.
Alors, avec le disque que vous avez choisi pour la suite, on va revenir à la France avec un compositeur que normalement, on n'associe pas vraiment au répertoire baroque.
Thank you.
bien voilà une version tout à fait étonnante de L'Aidronette impératrice des pagodes de Maurice Ravel, donc dans un arrangement pour flageolet, viol de gambe et théorbe. C'est quand même assez surprenant, c'était quoi pour pouvoir jouer enfin la musique de cette époque ou de ce compositeur, je ne sais pas.
Ah oui, alors on adore Ravel,
ah oui.
Entre autres de cette époque-là, du début du XXe siècle. La musique française de cette période-là. Et alors, on a travaillé pour cette pièce avec un compositeur qui s'appelle Vincent Bouchot, qui est assez génial et qui nous a fait un arrangement pour flageoler. Alors, avec notre collègue Kosuke Nozaki, qui est japonais, ouais. Qui est un grand spécialiste du flageolet. Donc, flageolet, viol de gambe et théorbe. Donc, complètement improbable, puisque l'original... Alors, il y a une version pour deux pianos, mais il y a surtout une version d'orchestre. Et c'est de là... dont Vincent est parti pour faire cet arrangement, qui est vraiment très brillamment, brillamment mené. Oui, ça c'est très fort.
Donc comme ça, vous avez satisfait votre goût et votre envie
de
jouer à la perte. Parce que vous êtes limité, vous, dans le temps, avec vos instruments.
Alors je pense qu'une des grandes envies qu'on a à la rêveuse, et ça s'est accentué depuis ces dernières années, c'est aussi de pouvoir donner à nos instruments du répertoire. Alors, faire des arrangements d'œuvres plus tardives que la période baroque, mais aussi demander à des compositeurs d'écrire pour avoir vraiment du répertoire au XXIe siècle, pour que ces instruments aient une autre vie aussi que celle de juste jouer de la musique baroque, qu'ils aient une vraie existence dans le XXIe siècle. Moi, ça me paraissait quelque chose d'assez fondamental, et on est d'accord là-dessus, Benjamin, je crois.
Oui, toujours.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
And a new
ça ne me rajeunit pas, hein, tout ça.
Ouais, mais qu'est-ce
que c'est bon. Ouais, de la bonne musique. Et c'est bien qu'en début, guitare sèche, flûte, on n'est pas si loin de votre répertoire, au fait.
Non.
Enfin, quand même.
Oui, effectivement, dans la pop, en tout cas des années 60 et 70, il y a assez souvent des instruments anciens, ouais. Baroques.
Mais même dans les Beatles, il y a beaucoup d'ensembles, oui. Pink Floyd,
etc. Et c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y avait tout un imaginaire autour de ces instruments anciens, en fait.
Mais il y a ça aussi chez les rappeurs. Il hein. y a chez les rappeurs une véritable curiosité à l'égard des musiques classiques, enfin, en tout cas, ou jazz. On voit bien que la musique populaire se nourrit aussi de la musique classique, comme la musique classique s'est nourrie de la musique populaire.
Oui.
J'aime
oui.
bien cet échange. Oui. D'ailleurs, on peut se demander de quoi les musiciens classiques, comme vous, se nourrissent-ils ? Est-ce que vous n'écoutez que du Marin Marais ou du...
Heureusement, non.
Non, non.
Non, parce que c'est important d'écouter plein de choses pour se nourrir, justement. Parce que, alors, la musique baroque, on adore, mais je crois qu'on écoutait que ça. Ça
oui,
serait...
puis je pense que dans les gens qui ne connaissent pas trop ces répertoires, parfois les gens imaginent qu'on est passéiste ou je ne sais quoi. Ou...
En fait, et vous ne l'êtes pas.
les gens pensent qu'on est des royalistes. Et
non, pas du tout. Non, c'est la musique qu'on aime. On aime bien l'histoire, bien sûr, mais la musique, voilà, c'est la musique qu'on aime. On écoute aussi du rock, du jazz, de la musique traditionnelle.
C'est peut-être ce qui fait que la façon dont vous interprétez cette musique est très contemporaine, en fait, et qu'on s'y retrouve, nous, en tant qu'auditeurs.
Peut-être.
Mais moi, je trouve qu'il y a ça chez les jeunes interprètes de maintenant qui sont éduqués de façon moins rigoureuse qu'autrefois. Ils ont les oreilles pleines de beaucoup de choses. Souvent, dans leur playlist, ils n'ont pas que de la musique classique. Et je trouve que ça se ressent dans leur interprétation. Ils sont en prise avec le monde dans lequel ils vivent, comme vous.
Oui, on peut dire ça.
En tout cas, c'est intéressant, je trouve, de faire, enfin, vraiment de se pencher sur le passé, mais aussi sur le présent et d'essayer de trouver les points communs. Ça, c'est une quête... assez passionnante.
Et il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup.
Sur le terrain.
Oui, c'est sur le terrain que nous allons maintenant pour voir un petit peu, hors des salles de concert, comment vous transmettez finalement cette connaissance et puis éventuellement ce goût pour cette musique ancienne. Et alors, on va mettre un peu l'accent sur une expérience que vous avez menée principalement avant le début de la pandémie, qui est celle de l'Opérabus. L'Opérabus, donc, c'était vraiment un joli projet que vous allez évoquer dans un reportage qui a été diffusé sur TV Tour.
La culture à présent, avec d'abord cette initiative un peu folle, un opérabus pour permettre de découvrir la musique baroque. L'ensemble de musique ancienne La Rêveuse sillonne la région. Deux musiciens et un bus donc, dont le décor rappelle les théâtrales italiennes. Il faisait étape hier soir à Chambord, le reportage de Sébastien Branger.
Ceci n'est pas un quart de touriste, mais bien une salle d'opéra, certainement la plus petite du monde. Un opéra itinérant qui s'est installé durant deux jours, juste à l'entrée du château de Chambord.
C'est une de nos missions de diffuser la culture sur le territoire rural pour des publics différents, donc des scolaires, des publics empêchés, ça peut être des gens qui sont un peu éloignés de la culture. Et donc c'était l'idée de faire venir un bus comme ça en zone rurale nous a paru vraiment pertinente.
Une initiative de l'ensemble baroque La Rêveuse qui met les musiciens dans une posture inhabituelle et dans une salle extraordinaire.
On fait un concert décomplexé, si on peut dire, un concert cool, où on va expliquer aux gens. En plus, le bus, c'est très petit, donc ça permet d'avoir cette proximité avec le public. Les gens ne sont pas passifs, on leur pose des questions aussi. Voilà, donc le public participe finalement au concert.
Entre deux sessions musicales, vous pourrez par exemple découvrir une guitare du XVIIe siècle.
Donc on dit que c'est une guitare à 5 cœurs. Donc j'ai 4 cordes doubles et une simple.
Histoire, pédagogie, musique, voilà la recette qui plaît aux grands mais aussi aux petits.
Est-ce que ça t'a intéressé d'entendre danser un instrument ou pas ?
Oui. C'était bien d'entendre des musiques anciennes.
D'accord. Voilà, donc ma fille dit c'est trop bien. Donc je dirais non, oui, c'était très. Voilà, alors, c'était à la fois très intéressant, effectivement, d'un point de vue de l'historique, sur la musicologie, et voilà. Et après, aussi très émouvant, voilà, de pouvoir écouter des anciens instruments donc, qui étaient joués pendant, donc, au 16e, pendant la Renaissance.
Le bus opéra circulera en région durant tout le mois de novembre. Naturellement, peu de place, mais heureusement, beaucoup de dates. Une bonne occasion de découvrir l'opéra.
Donc cet opérabus a été un vrai succès, n'est-ce pas la rêveuse ? On vous a retrouvé sur des parkings de supermarchés, dans des châteaux célèbres, et vous avez comme ça touché un large public.
Oui, oui. Alors 2000, je crois que c'était 2000 kilomètres, 2000 personnes.
2000 kilomètres, 2000 personnes, pas mal. Une personne par kilomètre, très joli. Mais donc ça a été une des expériences que vous avez menées en direction des nouveaux publics, comme on les appelle, mais vous êtes très souvent en contact avec les écoles, les classes, et en particulier avec un spectacle très joli, le Rossignol de l'Empereur de Chine.
Oui, qui fait partie d'un grand projet sur les oiseaux. Effectivement, pour nous, c'est important de... On aime bien croiser le public habitué des théâtres, mais on a aussi envie de croiser d'autres gens. Et on s'est rendu compte, surtout, que beaucoup de gens pensent que quand on va dans des lieux un peu éloignés, les gens disent « Ah, mais la musique classique, c'est pas pour nous. Puis c'est élitiste, etc. » Donc, on avait envie de partir un peu en campagne contre ça. Et le Rossignol et l'Empereur de Chine... Donc, qui est un spectacle jeune public, on l'a conçu pour qu'il soit possible dans tout type de salle, du moment qu'on peut avoir le noir salle. Donc, c'est une technique assez légère et l'idée, c'était de pouvoir le montrer dans un maximum de salles et pas seulement dans les lieux très équipés. Alors, quand c'est équipé, tant mieux, on est ravis. Mais voilà, ce n'est pas une contrainte.
Donc, avec ce spectacle, vous avez pas mal tourné et vous continuez à le faire.
Oui, c'est un spectacle qui tourne énormément. Tant mieux.
Le grand invité...
Benjamin et Florence, présentez-nous votre invité.
Oui, alors aujourd'hui, donc, nous sommes avec Perrine Pierson, qui est la directrice de l'Alliage à Olivet. Alors l'Alliage qui est une nouvelle salle de spectacle, on peut dire ça, Perrine ?
Tout à fait, nous sommes une nouvelle salle de spectacle. Donc l'Alliage, c'est la salle de spectacle et le centre culturel de la mairie d'Olivet. Et suite à une période de travaux, nous avons rouvert en septembre 2020.
Alors c'est très récent.
Oui, très récent.
Alors, comment vous êtes rencontrée avec la rêveuse alors ?
Alors, écoutez, moi, la première rencontre avec la rêveuse, c'était sur l'autoroute. Je savais que je allais les rencontrer pour un événement régional. Et j'écoute la radio sur l'autoroute et j'entends la rêveuse. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon signe. Donc, on s'est rencontrés autour de rencontres régionales, artistes et puis programmateurs. Mais déjà, on avait dû évoquer le Rossignol et l'Empereur. Et puis, donc, on a eu le plaisir de le programmer au début de l'année 2022, donc avec une séance scolaire et puis une séance tout public. Voilà.
Et ça n'est pas la rêveuse, votre premier choix musical.
Thank you.
Avishai Cohen, c'est donc votre choix, Perrine Pierson. C'est étonnant ce petit son de guitare, un peu sèche, pas sûr que ce soit une guitare.
Si, c'est une guitare, mais doublée avec d'autres instruments.
Ah, merci le spécialiste. Votre choix, alors Perrine, c'est lié à un goût personnel, j'imagine.
Alors, il y a un goût personnel, et puis c'est vrai que quand Benjamin et Florence m'ont proposé de participer, je me suis dit, ça serait intéressant de se dire quels seraient aujourd'hui les héritiers, d'une manière ou d'une autre, de la viole de gambe et du théorbe. On retrouve l'immense contrebassiste Avishai Cohen, voilà, qui hérite peut-être d'une manière ou d'une autre de nos compositeurs anciens.
Vous allez l'inviter ?
Alors, j'aimerais beaucoup. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'Alliage, on a une programmation pluridisciplinaire. Aujourd'hui, tout ce qui est jazz, on l'organise en collaboration avec la MJC d'Olivet, qui a un festival au mois d'octobre autour du jazz. Mais effectivement, je garde l'idée en tête. Pourquoi pas ?
Et vous l'avez déjà entendu en concert ou pas ?
Oui, plusieurs fois. Et donc, la dernière fois, c'était à la scène musicale à Paris en février dernier. Donc, toujours, voilà, cette composition en trio qu'affectionne vraiment Avishai Cohen, mais entouré de l'Orchestre symphonique d'Île-de-France, donc pour lequel il avait fait les arrangements. Alors là, on profitait vraiment de toutes ces qualités.
Alors, vous nous présentez le musicien, ou plutôt la musicienne suivante, qui est donc Clara Isé, qui est très originale, à la fois dans sa vocalité, mais surtout dans la façon dont elle conçoit ses clips, surtout.
Oui, alors Clara Isé, ça c'était aussi une manière d'éclairer une des facettes de programmation de l'Alliage qui peut être aussi sur, aider à découvrir de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Clara Isé, donc, qui a sorti un premier EP en 2019, effectivement avec un magnifique clip pour ce titre « Le monde s'est dédoublé » qui commence à la surface de l'eau et qui nous emmène et aussi dans un monde onirique de rêves sous l'eau.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Le monde s'est dédoublé, Clara Isée, c'est votre deuxième choix, comme on dit. Perrine Pierson, qu'est-ce que vous en pensez, les musiciens de La Rêveuse, parce que...
C'est une découverte.
Ah, moi, je suis fan, je suis fan.
Ah, ça y est, les fans. Et qu'est-ce qui vous plaît ?
C'est vraiment une voix. On parlait hors micro, c'est un peu l'héritière de Barbara au niveau,
oui,
au niveau du timbre. Là, c'est
incroyable. Les musiciens, ils sont bons, quoi.
Et,
c'est
une composition...
C'est pas juste trois notes, ça joue, quoi.
Et puis, au niveau composition, c'est vraiment très fouillé, avec un parcours harmonique vraiment intéressant, tout ça. Enfin, c'est chouette, quoi.
Vraiment. Vous êtes sensible à la voix, Perrine Pierson ?
Oui, c'est vrai que je me rends compte au fil des années que voilà, la voix, effectivement, je ne sais pas aussi bien l'expliquer que Benjamin. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir l'éclairage de musiciens, justement, sur la composition du titre.
Mais vous êtes sensible aux chanteurs, chanteuses, puisque votre choix suivant, c'est Rosemary Stanley. Donc, on va entendre à nouveau une voix personnelle. Original, qui a fait des choix vraiment intéressants sur le plan musical. Donc, c'est que vous êtes sensible à la voix, j'imagine.
Oui. Et puis, donc, dans ce titre, avec Rosemary Stanley, elle est accompagnée par Dom La Nena, mais d'ailleurs qui chante aussi au violoncelle. Et on retrouve voilà, ces instruments à cordes héritiers du théorbe et de la viole de gambe. Donc, voilà, ça me faisait plaisir de travailler autour d'un fil rouge.
Vous êtes musicienne vous-même ?
Alors, moi, je joue du piano, pas aussi souvent que je le souhaiterais. Voilà, il faudrait être régulier pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut. Mais ouais, ça reste vraiment, c'est un plaisir toujours renouvelé quand j'arrive à me mettre au piano.
C'est important d'avoir des directeurs de salles qui sont musiciens. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Beaucoup de salles sont dirigées par des gens de théâtre,
oui,
ce qui est bien. Mais on a beaucoup de mal, me semble-t-il, et ça, je parle aux musiciens professionnels que vous êtes, à convaincre les directeurs de salles que la musique plaît à tout le monde,
oui,
ou qu'elle peut plaire à tout le monde.
Surtout autour du classique, je dirais.
Oui.
Parce que là, musiques actuelles, tout ça, ça passe toujours. Au niveau du classique,
parce qu'on veut
c'est
toujours
plus...
cibler un public jeune et on pense que la jeunesse ne peut pas s'intéresser au répertoire que vous défendez.
Et c'est un vrai défi en fait.
Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que vous le relevez pas mal.
On essaye.
Allez, Rosemary Stanley.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Le jeu de la marée, le vin. terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Marie Stanley, Dom Laneda, c'était la Marelle, je crois que ça s'appelle comme ça.
Exactement, la Marelle.
Alors la programmation d'Olivet au mois de juin, c'est...
Alors au mois de juin, il y aura un spectacle Karl, voilà, pour jeune public, mais aussi pour les grands. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on fait des spectacles qui sont vraiment pour tous. Et puis à la fin du mois de juin, on a aussi un cycle de conférences scientifiques, une fois par mois, et un cycle de cinéma. Donc au mois de juin, on aura la dernière conférence scientifique de l'année. Et puis après, on se mettra très rapidement à travailler à la saison prochaine.
Ben bon courage alors.
Merci.
On ira sur le site pour aller voir ce que vous faites. Merci.
N'hésitez pas.
Question-réponse. Alors c'est vrai qu'on pose, les enfants comme les adultes posent souvent des questions amusantes, étonnantes. Alors on va essayer de résumer un petit peu les questions qui reviennent le plus souvent. Est-ce qu'il faut travailler beaucoup pour faire ces métiers? Est-ce que ça gagne bien? Ça, c'est les enfants.
Ouais, alors là, c'est la question pratico-pratique. Ça gagne bien, je ne sais pas. Travailler beaucoup, oui, ça, c'est sûr.
Et alors, pourquoi on choisit ces instruments-là, des instruments un peu bizarres que personne ne connaît?
Alors, parce qu'on les découvre parfois un peu par hasard. Et puis, des instruments qui ont tellement de personnalité, qui sont tellement spéciaux qu'on peut en tomber amoureux.
Ouais, c'est une très bonne réponse, merci. Et alors, combien d'heures par jour vous travaillez? C'est précis.
Oui, c'est précis aussi.
Ça.
Ouais. Oh, bah, le plus possible, hein, mais on n'y arrive pas toujours parce que, évidemment.
Et le plus, c'est quoi? 8 heures?
Non.
Oh, 8 heures, on n'y arrive pas parce qu'on a tellement d'autres trucs à faire, de traduction, de programmes à faire, de machin. Tout ça, ça prend beaucoup de temps aussi dans la journée.
Alors, les adultes posent souvent cette question étrange. Est-ce que c'est votre vrai métier?
Oui.
Et c'est vrai que je l'ai entendu, moi aussi, très souvent.
Oui, alors ça, c'est drôle. Benjamin avait un maître de lutte, Pascal Montaigner, qui disait « Eh bien, je me prostitue un peu à côté.
» Quand on lui posait la question.
Quand on lui posait la question.
Il avait une réponse toute faite.
Pour... votre cas, tous les deux,
non,
j'espère.
Non, pas du tout. Bon, on viole pas trop nos
Et dernière question aussi que les gens se posent, c'est bizarre de s'intéresser au passé.
Oui, alors ça c'est vraiment dans l'air du temps. Je trouve que souvent on s'intéresse vraiment au présent, au futur aussi. On pense au changement climatique, à des tas de trucs. Et on pense que le passé n'est pas intéressant. Or, je pense qu'il donne des clés pour comprendre le présent et le futur.
Et le futur.
Thank you.
Un extrait de l'un de vos futurs projets, le Carnaval des animaux en péril. Donc c'est événement anniversaire Saint-Saëns, mélangé à Vincent Bouchot, pour parler d'une question fondamentale et qui vous occupe beaucoup, vous, l'ensemble de la rêveuse, qui est celle de l'écologie, en fait.
Oui, alors ça nous préoccupe beaucoup. Comment la faire correspondre avec la musique ? Eh bien voilà, un Carnaval des animaux en péril, qui fait suite un peu au projet sur les oiseaux, dans lequel on parle aussi beaucoup d'écologie dans les conférences musicales. Et voilà, on est ravis parce qu'on a pu l'enregistrer pour Harmonia Mundi. Et donc, il sortira en principe l'année prochaine. Et donc, on a un programme de concert aussi avec une création visuelle numérique. Donc, c'est un concert-spectacle tout public, famille.
Tout public.
Voilà, qui sera créé à la Philharmonie de Paris le 16 novembre prochain.
Merci à vous tous pour votre venue.
L'agenda.
Et pour terminer, voici quelques rendez-vous qui vous permettront de retrouver les ensembles de la région Centre en ce mois de juin. Alors, l'ensemble La Rêveuse, avec qui nous venons de passer un très agréable moment, sera le 18 juin avec le Théâtre de l'Éventail à la scène nationale d'Orléans, avec les adolescents de l'unité éducative de jour, et le 25 juin au festival Pierre qui chante en Vallée-Noire, à la Berthenoux, pour le concert des oiseaux. L'ensemble Les Folies Françaises sera du 10 au 12 juin à l'église Notre-Dame de la Recouvrance d'Orléans pour trois récitals performance sous le titre Bach en solo. L'ensemble Ptix, lui, sera le 4 juin et le dimanche 5 juin au Clos Saint-Gilles à Saint-Christophe-sur-le-Nez pour un rendez-vous au jardin autour d'une création, Narcisse, une lecture en musique sur un texte de Laurent Héroux. Samedi 11 juin, il sera au MAM, Cité de la Création et de l'Innovation, pour un Promptix. Et le dimanche 19 juin à 11h au Continvoir pour un nouvel épisode du Cercle des Musiques Disparues, un atelier concert mensuel et itinérant. L'ensemble Kern lui donne deux rendez-vous le 1er juin à la scène nationale d'Orléans à 12h30 en aparté pour la découverte d'une œuvre de musique contemporaine et le soir à 20h30 un spectacle Kern et Totem. L'ensemble Douce Mémoire sera le 17 juin pour un concert, le Camp du Drap d'Or 1520, une messe pour la paix en l'église Saint-Julien de Tours, dans le cadre de l'événement de Tours, la Cité de la Soie. 1520, Tours prépare le Camp du Drap d'Or. Et puis le 28 juin pour un ciné-concert, Leonardo da Vinci, au cinéma Le Rabelais à Chinon, dans le cadre de l'association Musique et Patrimoine. Enfin, l'ensemble Consonance sera le jeudi 9 juin à 18h, certainement à Tours, à la bibliothèque musicale Jean-Yves Couteau pour une conférence-rencontre. Et puis le 16 juin à 20h30 au Grand Théâtre de Tours pour le concert d'ouverture du 50e Florilège Vocal de Tours, un concert spirituel au temps de Louis XV. Voilà, cette émission est terminée. Merci à Viviane de Radio Campus Orléans qui nous accueille et à Mélissa de Radio Campus Tours qui relaie l'émission, ainsi qu'à toutes les équipes des ensembles qui construisent ces émissions. Des émissions diffusées le dernier dimanche du mois sur Radio Campus Tours et tous les dimanches du mois suivant à 11h sur Radio Campus Orléans.